Bon dimanche, bonjour,
bonjour.
Ça va bien? 41 jours que nous sommes confinés dans notre petit paradis. Oui, des milliers, des millions le sont aussi, hein, mais pas forcément dans les conditions qui sont les nôtres. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, je te remercie pour ce moment et je te prie que je puisse être clair dans ce que j'ai à dire. Et que mes frères et sœurs qui écoutent sur Révélation Bible aient le cœur ouvert et qu'ils puissent prendre les bonnes dispositions pour l'après 11 mai. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient spirituellement intelligents au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, de nous bénir ensemble. Amen.
Amen.
Dans cette difficulté mondiale sans précédent, eh bien, nous autres, ici à la communauté, on est vraiment bénis, il faut le reconnaître. Et nous pouvons dire, comme le psalmiste, que nous vivons dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Et tous les chrétiens qui nous écoutent sur Révélation Bible ne peuvent pas en dire autant. Certains sont seuls. D'autres vivent dans une ambiance familiale plus ou moins chaotique. Certains sont atteints par cette peste. D'autres souffrent de toutes sortes de maux et leur opération est repoussée, les dentistes sont fermés, les soins sont reportés. Nous, on vit bien. Parce que depuis longtemps, nous avons écouté la voix du Seigneur. Alors, ne vous imaginez pas que nous entendons une grosse voix qui sort du ciel et puis qui nous dit des choses. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est Hollywood. Non, nous savons, nous avons écouté la voix du Seigneur dans ce qu'il a prophétisé il y a 2000 ans et que nous trouvons dans la Sainte Bible. Et il dit les choses qui doivent arriver avant son avènement, c'est-à-dire avant sa prise de pouvoir. Le mot avènement signifie prise de pouvoir. Donc, nous savons, nous voyons les événements arriver les uns après les autres, et nous savons donc ce qui va arriver, et nous avons pris toutes les bonnes dispositions il y a longtemps. Je ne dis pas ça pour accabler ceux qui nous écoutent en ce moment, mais pour vous réveiller, pour vous secouer, pour vous dire il ne faut plus que ça soit comme maintenant, cette difficulté mondiale. Je vais vous parler, je vais vous expliquer, je vais vous dire, ce n'est pas pour vous accabler, ce n'est pas pour vous vanter non plus. Je dis cela afin que, après ces semaines difficiles, au travers desquelles le monde entier a été bouleversé, bloqué, eh bien, vous qui m'écoutez, vous preniez les décisions de ne pas seulement écouter, mais de faire ce que je vous dis de faire et que je trouve dans les Saintes Écritures. Sinon, ça ne sert à rien de m'écouter. Hein. Il y a d'autres choses à faire. Hein. Enfin, pas grand-chose en ce moment, puisque à part regarder la télé où on nous parle que du Covid, ça devient... Imaginez que vous ayez cru ce que je vous ai dit depuis des années. Imaginez que vous ayez cru ça. Ben vous ne seriez pas dans la situation terrible qui ébranle ce monde. Vous seriez, comme dit le psalmiste, près des eaux paisibles. Vous seriez, comme dit le psalmiste, dans de verts pâturages. Vous avez vu, j'ai mis une photo de là où nous vivons. C'est absolument magnifique, c'est loin des villes, on n'a pas attendu le 17 mars, c'est ça, pour quitter Paris, non? On savait qu'il fallait quitter Paris, je vous l'avais dit qu'il fallait quitter les villes, et nous n'avons pas attendu. Vous seriez, comme nous sommes, paisibles, dans un endroit magnifique. Depuis 1977, Dieu est en train de rétablir les choses dans son Église. Je vous en ai souvent parlé. Et si vous ne le savez pas, allez dans révélationbible.fr, vous allez dans l'onglet messages, vous cliquez et vous allez tout, vous avez tous les titres de toutes les prédications, je crois. Je ne sais pas combien il y en a, il y a plus de 1000, je crois. Je vous parle de ces choses. Et nous, nous sommes entrés dans ce rétablissement. Nous n'avons pas dit, ah bon, Dieu est en train de rétablir les choses, hein, c'est super, gloire à Dieu, alléluia, tiens, passe-moi le sel. Non, on a pris en considération ce que Dieu est en train de faire. Et nous jouissons de la paix que le monde est incapable de nous donner, surtout en ce moment, où le monde n'est même pas capable de donner des masques aux infirmières. Ben. Vous savez, la parution miraculeuse de la Bible est un signe pour tous les vrais croyants. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire en nous donnant la Bible. Et chacun de ceux qui lisent la Bible peuvent y puiser ce qui est nécessaire pour corriger leur vie, pour être aidé, pour être soutenu, pour être éclairé sur le chemin ici-bas. Quand on fait ce que Dieu dit, nous sommes régénérés par la réalité de la révélation qu'on y trouve. Régénérer, ça veut dire recréer. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. On est différents. Et ça se voit. Nous sommes renouvelés dans notre intelligence et nous prenons les dispositions justes au moment où il faut. Parce que nous sommes avertis. C'est un livre. La Bible, c'est pas seulement un livre de morale ou qui raconte des miracles, où il y a des bonnes paroles. Non, c'est un livre prophétique, un livre qui annonce les choses qui doivent arriver. Et si on y fait attention, on sait ce qui va arriver. Tout ce que nous vivons fait partie d'un plan qui est là dans la Bible. Dieu a un plan pour son Église, donc il a un plan pour les membres de son Église. Et le but de ce plan, c'est que nous soyons exaltés. Le mot « enlevé » dans 1 Thessaloniciens 4, ce n'est pas vraiment le mot juste. Le mot, c'est « exalté ». Nous sommes exaltés, nous serons exaltés, nous serons transformés, nous serons séparés des boucs, nous serons transformés à son image, rendus semblables à lui. C'est ça le but de ce plan qu'on trouve dans la Bible. Après, il y a d'autres choses qui doivent arriver encore. Et pour le moment, on est là sur cette terre. Et le but sur cette terre, c'est que nous soyons métamorphosés, transformés à son image. Alors, notre chair est faible, c'est vrai. Et elle s'attache aux choses d'ici-bas. Et ça, c'est un fléau, c'est terrible. C'est terrible. Mais une fois qu'on a dompté la chair, notre esprit éternel, parce que notre esprit est éternel, c'est ce souffle que Dieu a mis en nous, ce souffle de Dieu qui nous rend vivants, eh bien, l'esprit de Dieu désire ardemment arriver à ce jour glorieux dans les meilleures conditions, sans les limitations de cette vie terrestre. Mais ça, c'est notre esprit qui aspire à ça. Mais pour pouvoir arriver à ce que cela devienne une réalité, il faut d'abord dompter la chair qui veut s'attacher aux choses de la terre. Vous savez, notre communauté a payé très cher le pouvoir de vivre ce que nous vivons. Je ne vous parle pas que d'argent. Nous avons payé très cher. On a commencé à obéir à un texte que les chrétiens mettent complètement de côté. Luc 14, 33. J'avais assisté en son temps, avec l'équipe de Teen Challenge, à une série de réunions à Gagnères avec le pasteur Mel Graham. Et il avait prêché sur comment devenir un disciple. Il a pris tous les textes au sujet des disciples, sauf celui-là. Ben oui. Luc 14, 33. Une parole de Jésus qui dit « Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Mais allez dire ça dans les églises. Les gens vous disent, moi je suis prêt à renoncer à tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit pas qu'il faut être prêt à renoncer à tout, il dit, il faut renoncer à tout. Vous ne pouvez pas être mon disciple si vous ne renoncez pas à tout. Nous, on a commencé à faire ça. Avec Michou, on a commencé à faire ça. Puis, après avoir obéi à cette parole de Jésus, c'est-à-dire à renoncer à ce que nous possédions, nous avons obéi à un autre texte qui est dans Actes 4, 34-35. Texte qui est aussi complètement mis de côté, on n'en veut pas. Pourtant, les églises, moi j'ai fait partie de l'église des assemblées de Dieu où on disait, nous prêchons le plein évangile, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. Nous prêchons le plein évangile. Ah bon? Et ça? Alors, Actes des Apôtres 4, 34-35. Il n'y avait, c'était l'église, dans l'église à Jérusalem, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, aucun pauvre dans d'autres versions, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, comme Jésus a dit, vous ne pouvez pas être mes disciples si vous ne renoncez pas à tout ce que vous possédez. Donc ils vendaient et déposaient aux pieds des apôtres le prix de ce qu'ils avaient vendu et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et nous, on a décidé de vivre ça. Et on le vit toujours. On le vit toujours, on continue à le vivre. On a donc déposé nos biens aux pieds des envoyés de Dieu. Le mot apôtre signifie envoyé de Dieu. Ça coûte cher de faire ça. Ça coûte cher de faire ça. Pour pouvoir le faire, il faut vraiment obéir à un autre texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 16, versets 24-25, où il est dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, voyez, pas seulement à vos biens matériels, mais qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra-t-il donner en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Comment vous avez agi? Depuis que vous êtes converti, comment vous avez agi? Est-ce que vous avez renoncé à vos biens? Est-ce que vous avez déposé au pied des envoyés de Dieu? Est-ce que vous avez vécu en communauté comme les premiers chrétiens? Ça, c'est ce que la Bible dit qu'il faut faire. Est-ce que vous l'avez fait? Non? Alors vous n'êtes pas des disciples. Vous êtes quoi? Des adeptes d'une religion. Vous aimez Jésus, c'est vrai, mais vous serez jugé d'après votre manière de vivre, ce que vous avez fait. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous avez vécu ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ou est-ce que vous avez dit, « Oh non, c'était pour autrefois, c'est plus pour aujourd'hui. » Nous avons obéi à Matthieu 16, 24-27, c'est-à-dire nous avons renoncé à notre propre vie. Les frères et sœurs, quand ils sont rentrés dans la communauté, quand ils ont commencé à vendre leurs affaires et déposer aux pieds de Michou et moi, qui étions les fondateurs, il fallait qu'ils renoncent à leur vie. Hein. Qui leur disait qu'on n'était pas des escrocs? Qui leur prouvait? Fallait renoncer vraiment à sa vie. Fallait vraiment avoir la foi. Il fallait vraiment faire confiance à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Ils l'ont fait. Je me souviens de Dominique quand il est arrivé. Il vivait dans une petite chambre qu'il louait à une mémère, tout près de la gare du Nord. Hein, Dominique? Qu'est-ce qu'on a rigolé ce jour-là, hein? On a rempli des sacs poubelles de vieux papiers, de vieux machins qu'il gardait parce que. Voilà, quand on est tout seul, on ne sait pas ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, donc il gardait absolument tout, ses factures, c'est vrai. C'était. Et puis il est venu vivre en communauté. Ça fait combien d'années que tu es avec nous là?
36 ans.
36 ans. 36 ans. Ah oui. D'abord renoncer à nos biens matériels, ensuite renoncer à soi-même. Dominique, tu regrettes d'avoir fait ça? Est-ce que je t'ai roulé? Est-ce que je t'ai volé? Non. Est-ce que tu manques de trucs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que non. Faire confiance à Dieu et faire confiance aux envoyés de Dieu. Ça, c'est loin de la religion. Hein. On n'ose plus faire confiance aux serviteurs de Dieu, ils violent les enfants. Non, pas tous, hein. pas tous. Il suffit de lever sa main dans une réunion, il suffit de se faire baptiser après avoir un petit entretien avec le pasteur, et puis ensuite vous venez au culte tous les dimanches, et puis vous donnez votre dîme, et puis voilà, on est loin de ce que Jésus dit de faire. Hein. Les disciples de Jésus, ils ont posé une question parce que un jour, il y a un homme qui est venu et puis qui a dit « Maître, je veux te suivre ». Et Jésus lui a dit « C'est bien, mais il faut être en ordre avec Dieu ». Il dit « Mais je suis en ordre, je suis des commandements et tout ». Alors Jésus l'a écouté, puis finalement, Jésus lui a dit « Il te manque une chose ». En fait, ils lui ont dit deux. Il lui dit « Ce qui te manque ?» Va, vends tout et suis-moi. Pour suivre Jésus, il faut tout vendre pour le suivre. Ça, c'était comme ça au début. Et ça n'est plus comme ça parce que les pasteurs et les curés ont perverti les paroles de Jésus. Voilà pourquoi l'Église se trouve dans l'état où elle est aujourd'hui, où les gens sont seuls. Malheureux, tout seuls. Ils n'osent plus parler au pasteur. Il faut parler au pasteur pour prendre un rendez-vous 6 mois à l'avance. Alors, ce jeune homme n'était pas prêt à vendre tout ce qu'il possédait, parce que la Bible nous dit qu'il avait des grands biens. Et Jésus lui dit, « Te manque une chose, vends tout et suis-moi. » C'est deux choses, en fait. Mais ces deux choses, c'est une chose. Pour suivre Jésus, il faut tout vendre, il faut tout quitter, il faut tout abandonner. C'est bien tout. Alors, c'est écrit que cet homme s'en alla tout triste. Alors, les disciples l'ont vu partir. Jésus ne l'a pas couru derrière, hein, il l'a laissé faire, et moi je vous laisse faire. Hein. Si vous ne voulez pas faire ce que Jésus dit, ben, je ne vais pas vous courir derrière, je vous laisse faire. Mais on lit dans Marc 10, je crois, Marc 10, 16, 22, 31, je vous lis. L'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Ben oui, ils ont eu une sorte de « Oh ! Mais alors, qui c'est qui peut rentrer dans le royaume de Dieu ?» Jésus reprend et dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors les disciples, d'abord ils étaient effrayés, puis ensuite, c'est écrit, ils étaient encore plus étonnés et se dire les uns aux autres, mais alors qui peut être sauvé? Parce que les conditions, les critères sont trop élevés. Qui peut être sauvé? Alors Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, « Mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ils avaient tout quitté. Rappelez-vous quand Pierre, il a laissé sa barque, il a laissé son père, il est parti comme ça. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Jésus dit pas « Vendez tout et devenez des pauvres clochards !» Non, il dit, si vous faites ça, vous allez tout recevoir au centuple. Ah, Michel, alors t'es intéressé? Parfaitement, je suis intéressé. Mais bon, j'ai besoin de maisons pour pouvoir loger des pauvres, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont dans le besoin. Et on en a eu. Et on en a encore qui sont à la porte. et qui hésite. Il dit que si nous renonçons à nos biens, à nos familles, pour lui, pour le suivre lui, pour prêcher la bonne nouvelle, alors on recevra tout au centuple dans le temps présent. Est-ce qu'on peut dire, nous, qu'on a reçu au centuple dans le temps présent? Si oui, vous dites-le franchement. Oui ou non?
Oui.
Oui. Nous avons tout reçu au centuple. Vraiment. Avec en prime des persécutions, ça c'est vrai aussi, mais pour fin, la vie éternelle. Ah bon, on n'a pas la vie éternelle si on croit au Seigneur Jésus? Il ne suffit pas de croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle? Oui, il faut croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Il faut croire ce qu'il est, il faut croire ce qu'il dit, et puis il faut obéir. Parce que si on croit, on obéit. Alors, qui vit ça? Pourtant, tous les chrétiens disent « L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ah oui? Et ces paroles-là que je vous ai dites. Alors oui, nous vivons bien à l'aise, c'est vrai. Nous mettons tout en commun, c'est vrai. Et c'est pourquoi nous vivons bien. Les premiers chrétiens, il n'y avait pas de pauvres parmi eux, il n'y avait pas d'indigents, parce qu'ils mettaient tout en commun. Maintenant, devant les églises, il y a des gens qui mendient. Dans les églises, il y a des pauvres, des gens qui sont malheureux, qui ne bouffent pas à leur faim. Je me souviens toujours, je ne veux pas dire quelle église c'était, mais c'était pas loin de Sarcelles où nous étions, dans notre deuxième communauté. Il y a un monsieur qui est venu nous trouver, Liliane va savoir qui c'est. Un monsieur qui est venu nous trouver, qui nous a dit, il y a une vieille dame qui dans notre église n'a plus de bois pour se chauffer et le pasteur ne veut pas qu'on sorte de l'argent de la caisse pour lui payer du bois. Ça, c'était un cas. Ça, c'était un cas. Nous en avons vu combien. On a aidé cette vieille femme. Je me souviens, quand Philippe est arrivé, il dormait dans son camion avec son chien. Bon, il n'était pas malheureux, hein, il avait choisi ça, mais c'est quand même mieux ce que tu vis aujourd'hui, non? Aucun de nous n'avait la possibilité de vivre dans un endroit aussi beau, aussi paisible, mais ça nous a coûté. Il a fallu avoir la foi, il a fallu faire des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement. Si Jésus ne les avait pas dit, on ne les aurait pas faites. Nous avons renoncé à notre vie, nous avons renoncé à nos biens. Moi j'avais une maison en Suisse, on l'a vendue, j'ai tout mis dans la communauté. Ça appartient aux frères et sœurs. Ma femme, la même chose. Et combien d'autres aussi. Nos parents, au début, ça n'a pas été facile. Hein. Pour ma mère, c'était facile. Elle est venue tout de suite avec nous. Mais il y a des parents qui ont trouvé ça complètement fou. Et ça a été un peu difficile. Mais on a été ferme. On a suivi le Seigneur Jésus. Et finalement, les parents, eh ben, ils sont tous... bien restés, ils sont tous venus au Seigneur et on les a vus partir dans le Seigneur. Nous avons suivi Jésus, c'est-à-dire nous avons suivi ce qu'il a dit il y a 2000 ans. Et il a été fidèle parce qu'il est vivant encore aujourd'hui. Et puis nous sommes aussi restés fidèles depuis 1977, on n'a pas changé d'un poil, on est resté fidèles sur ces choses, on n'a pas bougé. On a progressé. Au début, la communauté, c'était une baraque avec trois pièces qui faisaient 3 sur 3, plus une cuisine et une cave. Il n'y avait même pas de grenier. Ensuite, on a acheté, on a pu avoir Sarcelles, après on a pu avoir le château, puis maintenant on est là, dans ce paradis. On a vraiment été richement bénis. Bien sûr, on a été persécutés, trahis par des gens qui étaient avec nous, mais qui finalement n'étaient pas des nôtres. Mais ça a toujours existé, déjà dans l'Église primitive. L'apôtre Jean, 1 Jean 2,19, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Voilà, ça c'est normal. C'est normal qu'il y a des gens qui se taillent. Une fois qu'ils ont ce qu'ils voulaient, ils foutent le camp. Hein. Vous voyez, le rétablissement de toutes choses dont nous parlent les prophètes, Et Luc, dans son livre, dans Actes 3, 21, ça se passe en ce moment. Il y a eu un moment où c'était la construction de l'Arche de Noé. Maintenant, c'est la restauration, le rétablissement de l'Église. Il faut rentrer dans l'Arche. À l'époque, il fallait rentrer dans l'Arche. Maintenant, il faut rentrer dans le rétablissement de l'Église. Si vous ne rentrez pas dans le rétablissement de l'Église, un jour les portes seront fermées, ça sera trop tard. Dernièrement, je vous ai parlé du lavage des pieds dans Révélation Bible et sur notre page Facebook Révélation Bible. Sur la page Facebook de Révélation Bible, je n'ai pas encore les chiffres du site, mais j'ai les chiffres de la page Facebook. Vous avez été 18 356 à écouter mon enseignement. C'est une ordonnance de Jésus, le lavage des pieds, mais elle n'est plus pratiquée dans l'Église. Il y a une personne qui me dit « Ah oui, nous on le fait une fois par année dans l'Église. » C'est déjà pas mal. Mais bon, vous vous lavez les pieds une fois par an dans la vie courante. Bon, cher, on nous dit qu'il faut se laver les mains. J'espère qu'un jour ils nous diront se laver les pieds. Le baptême pour les morts, on trouve dans 1 Corinthiens 15-29, 1 Pierre 3-19, 1 Pierre 4-6, Éphésiens 4-8-10, ça aussi c'est oublié dans les églises, on ne le fait pas. Et pourtant on dit, nous prêchons le plein évangile. Ah bon ? Combien de choses ne sont plus enseignées et surtout ne sont plus vécues dans les églises ? Pauvre église ! Dans l'Apocalypse, il y a, Apocalypse 2 et 3, il y a l'histoire de l'Église qui est prophétisée, et nous vivons dans l'âge de Laodicée, où Jésus dit, voici, tu es tiède, puisses-tu être froid ou bouillant, mais voici, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ah, ça c'est vrai, ils ont des églises maintenant, c'est des grands locaux magnifiques, avec une sono, on se croirait mieux qu'à l'Olympia, hein, c'est fantastique. Mais bon, il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, la parole, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Vois pas clair, dors. Ah, ça pour faire des réunions, ils ont la réunionite aiguë. C'est une maladie, hein, la réunionite aiguë. Ils courent dans les conventions, ils passent des heures de louange, des nuits de prière, ils font des collectes à n'en plus finir. Ah, ça, alors ils sont très forts. Mais est-ce que c'est bien ça l'Église ? Quand vous lisez la Bible dans les Actes des Apôtres, vous ne trouvez pas ça, vous trouvez, c'est pas comme ça. Les Églises ne sont plus ce qu'elles étaient au début. Et ne me dites pas que c'était qu'à Jérusalem. Dans tout le Nouveau Testament, vous voyez, dans toutes les épîtres, l'Église qui est dans la maison d'un tel, l'Église qui est dans la maison d'un tel, l'Église qui est dans la maison d'un tel. Là, en ce moment, dans le monde entier, toutes les églises sont fermées. Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous fait pas poser des questions. Vous êtes seul chez vous. Pour les pasteurs les plus doués, ils font des vidéoconférences. Mais elle est où votre communion fraternelle ? Vous prenez le pain et le vin comment ? Dieu a mis un coup de frein à tout ça pour que le peuple réfléchisse, pour que son peuple se repente de ne plus être qu'une caricature d'église que Dieu a tolérée jusqu'à maintenant. Mais maintenant, juste avant son avènement, il dit c'est assez, attention, je vous avertis. Alors à partir du déconfinement, qu'est-ce que vous allez faire ? Comme avant ? Réunion, 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 dîme, collecte, jeûne, prière, collecte, dîme, réunion, réunion, réunion. Et puis ensuite vous rentrez chez vous tout seul pour le reste de la semaine. Ah non, il y a aussi la réunion du mardi, celle du vendredi. Ah, réunion, réunion, réunion. Va à la réunion, on est chrétien, va à la réunion. On fume pas, on est chrétien, alléluia. C'est ça l'église. Nous, faut autre chose. On fait ce qui est écrit dans Actes 2,42, où il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des envoyés de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Ah, c'est ça que nous vivons, nous. C'est ce que la Bible dit de vivre. Alors après le confinement, vous allez faire comment? Vous allez continuer comme avant? Vous allez me dire, oui, mais il faut faire comment? Écrivez-moi, je vous expliquerai. Maintenant, j'en arrive à ce que j'ai à vous dire, de sérieux. C'était sérieux ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est encore plus sérieux. Le Covid-19, ce n'est qu'un avertissement. Les conséquences du Covid-19, ce n'est qu'un avertissement. Le pire est à venir. Ça ne sera pas une peste, non. Ça sera une paralysie totale du monde, pire que ce qu'il y a maintenant. Parce que tous les systèmes informatiques mondiaux seront en panne, bloqués, et ça paralysera absolument tout. Je vous fais un dessin, je vous explique. Pagaille totale dans tous les aéroports, dans toutes les gares, dans tous les hôpitaux. Fini la communication entre les États, la police, les services secrets, les départements de la défense, hors service. Plus de communication entre les gens, plus de téléphone, plus d'internet. Fini les soins dans les hôpitaux, les scanners, les radiothérapies. Terminé, tout ça, ça marche par l'électronique, par l'informatique. Mon gendre qui travaillait à General Electric, il réparait les scanners depuis son bureau, par ordinateur. Un scanner va tomber en panne, fini, terminé. Plus d'ordinateurs, le chaos, le système central des cartes de crédit, brûlé, fini, terminé. Les banques en faillite. Les transactions nationales, les transactions internationales, terminées. Les satellites de communication, bousillés. Votre téléphone portable, inutilisable. Plus d'Internet. Les agences de réglementation de l'aviation civile et militaire, bousillées en quelques secondes. Plus d'électricité. La ruine soudaine des nations qui est annoncée dans 1 Thessaloniciens 5:3. Vos allocations familiales, terminées. Pension alimentaire, terminée. Votre retraite, vous ne la toucherez plus. Vos assurances, terminées. La ruine de tout. Tout marche avec l'informatique. On a tout misé là-dessus. Tout, de votre voiture au ministère de l'Intérieur, tout fonctionne avec l'informatique. Des milliards de personnes vont être plongées dans le noir. Vous ne pourrez pas regarder les informations pour savoir ce qui se passe ailleurs. Plus de télé, fini. Les centrales atomiques bousillées. Attention, pas seulement à l'arrêt, hors de contrôle. Voilà la prochaine catastrophe. Un bug informatique à l'échelle mondiale. Vous pensez que je déraisonne? Ben vous verrez. Vous verrez. Vous vous rappellerez que je vous l'ai dit. Ce qui nous arrive maintenant avec le Covid-19 et le confinement et le blocage mondial de beaucoup de choses, excusez-moi, c'est juste qu'une aimable répétition générale de ce qui va arriver bientôt. Comment est-ce que vous allez vous nourrir? Les magasins ne seront plus approvisionnés comme ils le sont maintenant. Comment est-ce que vous allez vous chauffer? Comment est-ce que vous allez vous soigner? Frères et sœurs, entrez dans ce que Dieu rétablit pendant qu'il est encore temps. Vivez son Église telle qu'il la veut. Pourquoi vous croyez qu'on a 4 hectares? On cultive. Pourquoi vous croyez qu'on a des poules? C'est pour les œufs. Pourquoi vous croyez qu'on a des moutons? Pourquoi vous croyez... Ah, c'est joli, c'est romantique, hein? C'est vous êtes en plus des 68 ans, hein? Oh, on est des 68 ans? Ah mais mon vieux. Moi j'ai connu les 68 ans, j'étais en 68, j'avais 18 ans. Bon, ça n'a rien à voir. Pour ce qui est du Covid-19, ça va s'arrêter. Et le monde entier va commencer à revivre dans l'insouciance. Mais vous les chrétiens, peuple de Dieu, vous êtes avertis. Jésus, je te prie que cette parole prophétique touche les cœurs au nom de Jésus. Amen. Au revoir.